Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Un des buts de l'association est de montrer, à la suite d'auteurs comme Jacques de Montléon ou Daniel Joseph Lallemand, la fécondité de la philosophie aristotélicienne pour notre réflexion aujourd'hui. Et dans le domaine de la morale, depuis le milieu du XXe siècle, on voit un intérêt nouveau pour ce qu'on appelle l'éthique des vertus, pour une morale des vertus, et donc pour, en particulier pour la morale développée par Aristote et saint Thomas d'Aquin. Et un des représentants de ce renouveau de la morale des vertus est Alasdair MacIntyre, un philosophe écossais qui a publié dans les années 80 du siècle passé un ouvrage qui est aujourd'hui fameux et qui s'appelle Après la vertu. Nos séances cette année seront consacrées à une lecture de cet ouvrage. Dans sa préface, MacIntyre dit que le point de départ de sa réflexion a été la conviction chez lui qu'on ne pouvait pas faire de la morale dans son bureau sans essayer d'examiner ce qu'il en était des contextes sociaux, culturels, dans lesquels les hommes devaient vivre cette morale. Il avait le sentiment que souvent, trop souvent, dans l'université, on développait un discours moral hors sol, coupé de tout contexte. Et cette remarque préliminaire à son ouvrage nous introduit déjà à, je dirais, la position fondamentale qu'il va défendre, c'est-à-dire que nous dépendons toujours d'un milieu social, et qu'un des points fondamentaux pour réfléchir à ce qu'est la morale, c'est d'examiner le type de lien que nous entretenons avec le milieu, les milieux sociaux. Dans son ouvrage, au chapitre 1, MacIntyre commence par quelques paragraphes de science-fiction. Il imagine que, une catastrophe écologique s'est produite et que ce sont les savants qui en sont tenus responsables. Alors, il y a une grande révolte et on s'en prend aux malheureux savants, on les exécute tous, on fait disparaître leurs livres, on détruit leurs laboratoires, et puis un peu de temps passe. Et on se rend compte que on peut difficilement se passer de science. Alors on recommence à bricoler quelque chose qu'on appelle science, mais on n'a plus que des fragments du savoir ancien. On n'a plus que quelques pages de livres qui ont échappé à l'autodafé. On a quelques descriptions d'expériences, mais qui sont découpées de tout contexte. Et en fait, donc, on ne comprend plus les quelques mots, les quelques théories, les quelques pratiques dont on a gardé le souvenir. Eh bien, il nous dit ce que je dis de manière fictive. De ce qui pourrait se produire avec la science, c'est exactement ce qui s'est produit avec la morale pendant la modernité. C'est-à-dire que nous avons hérité de quelques fragments d'un discours moral dont nous ignorons le contexte, et cette connaissance fragmentaire et décontextualisée du discours moral nous empêche d'en comprendre la signification. Cette situation de la morale aujourd'hui Nous allons voir quel processus historique peut justifier ce que nous dit McIntyre. Explique en tout cas, et c'est le deuxième point que McIntyre développe au chapitre 2 de son ouvrage, que le débat moral aujourd'hui consiste en un désaccord entre différentes positions tout à fait inconciliables. Le débat moral aujourd'hui est sans issue, nous dit notre auteur. Il n'y a pas de moyen rationnel de parvenir à un accord entre les personnes qui opposent leur position en matière d'éthique. Il donne différents exemples, je vais en détailler un, c'est celui de la guerre. Il dit, quant à la guerre, on peut tenir trois positions. Dans la première position, on estime qu'il ne peut y avoir de guerre juste que si la guerre permet d'obtenir des biens supérieurs aux maux qu'elle occasionne. Et par ailleurs, il ne peut y avoir de guerre juste que si une distinction est faite entre combattants et non-combattants et si les non-combattants sont protégés contre les destructions de la guerre. Or, aujourd'hui, vu les techniques qui sont impliquées dans les conflits, l'escalade est imprévisible, on ne sait pas quels vont être les maux engendrés par la guerre, et d'autre part, étant donné la manière dont on combat aujourd'hui, la distinction entre combattants et non-combattants est impossible. Dans cette situation contemporaine, il n'y a plus de guerre juste et nous devons tous être pacifistes. C'est la première position. Selon la deuxième position, si on ne s'équipe pas pour une guerre possible, si on ne prépare pas la guerre, alors on n'échappera pas à l'invasion d'ennemis. Et en fait, la préparation de la guerre est le seul moyen de garantir la paix. Sinon, on n'évitera pas la guerre et si elle se produit, nous serons vaincus. Deuxième position. Troisième position possible, c'est celle de dire qu'il est des guerres injustes, mais que les guerres de libération, notamment dans les pays du Sud par rapport à telle dictature ou telle puissance encore coloniale, ces guerres de libération politique sont justes. Alors, la première position, c'est de dire qu'il n'y a plus de guerre juste aujourd'hui, c'est une position dont l'argumentation remonte à la philosophie aristotélicienne elle-même. C'est d'ailleurs une position qui, en gros, est celle de l'Église catholique aujourd'hui. Ça, c'est moi qui l'ajoute, parce que McIntyre écrit il y a plusieurs décennies. La deuxième position, c'est-à-dire qu'il faut préparer la guerre pour obtenir la paix, elle s'autorise d'arguments qui peuvent être identifiés comme étant ceux d'un auteur comme Machiavel, par exemple, au moment de la Renaissance, et ce n'est pas la justice ou le fait que des innocents risquent d'être victimes de la guerre, mais c'est la victoire et la survie même d'une nation et de ses membres qui sont en cause. La troisième position, qui est celle de dire qu'il est des guerres de libération de populations opprimées qui sont justes, elle se réclame, elle peut se réclamer d'arguments qu'on peut trouver chez Marx ou chez ses disciples. Alors, c'est un exemple de débat moral contemporain dont McIntyre nous dit ce débat ne peut pas aboutir à un accord entre les différents tenants du débat. Alors, il cite d'autres débats, on ne va pas les présenter de manière aussi détaillée que ce que je viens de faire pour la guerre juste. Il parle notamment du droit à l'avortement ou encore de la privatisation ou non de la médecine et de l'enseignement. Ce sont trois exemples de débats où on s'oppose de manière interminable sans qu'une argumentation rationnelle permette à tout le monde de s'entendre. Et il fait remarquer un certain nombre de points communs entre ces questions interminablement débattues aujourd'hui. Tout d'abord, l'incommensurabilité conceptuelle des arguments. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas évaluer les principes dont on part les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de dénominateur commun qui définisse un premier terrain d'entente à partir duquel on pourrait justement s'entendre. D'où fait-il remarquer, ça me semble très intéressant, la véhémence des débats. C'est-à-dire que comme on ne peut pas argumenter et convaincre le parti adverse, eh bien, argument faible, parler fort. Hein, c'est un vieux truc de prédicateur, c'est valable aussi pour le débat. Ensuite, cependant, et c'est paradoxal, alors que les débats ne peuvent pas être conclus parce qu'on ne s'entend pas sur un certain nombre de principes communs, tous ont une forme impersonnelle, c'est-à-dire tous nous disent « il faut » ou « il ne faut pas ». Et enfin, troisième point commun, et je l'ai montré en citant les inspirateurs possibles des diverses positions, c'est l'hétérogénéité, la diversité des sources qui alimentent l'argumentaire de chacun. Alors, dans une situation telle qu'il la décrit ici, hein, c'est-à-dire celle de débats moraux qui, sur les grandes questions, ne peuvent jamais être conclus, traités rationnellement et aboutir à une conclusion sur laquelle tous s'entendent, il dit, dans cette situation-là, émerge une position qu'il appelle l'émotivisme. Alors, émotivisme, bien sûr, de émotion. Et selon cette position, tout jugement moral n'est rien d'autre que l'expression d'une préférence, d'une attitude ou d'un sentiment. Tout jugement moral n'est que l'expression d'une préférence, d'une attitude ou d'un sentiment. Il ne s'agit pas de savoir si un jugement moral est vrai ou si un jugement moral est faux. Et on constate que aucun accord ne peut donc être obtenu de manière rationnelle, en argumentant de façon rationnelle. On peut aboutir à un accord, mais de manière non rationnelle, c'est-à-dire en persuadant autrement que de façon rationnelle. Et donc, probablement, on y reviendra en manipulant les personnes, hein, en les amenant à rejoindre notre position qui, en fait, est une position favorable à telle ou telle préférence personnelle, subjective. Lorsque je dis « cela est bien », selon la théorie émotiviste, en fait, cela signifie « j'approuve cela », ça me fait du bien, ça me fait plaisir, bon, j'approuve cela, faites comme moi. Cependant, si on demande au tenant de la position émotiviste, mais quels sont les sentiments ou les attitudes qui sont exprimées dans un énoncé moral, linguistiquement, c'est très difficile à préciser. En fait, ce que pense McIntyre, c'est qu'il y a confusion dans la théorie émotiviste entre l'usage et la signification. Autant il est impossible de démontrer que un énoncé moral a comme signification une préférence, autant une préférence subjective, une attitude ou un sentiment, autant l'émotivisme a sans doute raison lorsque il nous dit que on use d'énoncés moraux non pas pour faire triompher ce qu'on estime être la vérité, mais pour imposer un sentiment, une attitude, une préférence, une disposition personnelle et subjective. Un tel état du débat moral est le résultat d'un processus historique qui s'est déroulé en trois étapes. Dans une première étape, la justification rationnelle des positions morales était encore possible. Et un peu plus loin, McIntyre montrera comment, dans les sociétés, disons, traditionnelles, il était possible de justifier rationnellement les positions morales. Puis, vint un moment où cette justification rationnelle des énoncés moraux est devenue impossible. Selon McIntyre, cela historiquement coïncide avec l'époque de la Lumière, des Lumières, pardon, donc 17e-18e siècle, et de la modernité. C'est donc une époque où on essaie de justifier rationnellement un discours moral, mais on échoue à le faire. Et enfin, vient un moment où on reconnaît qu'on ne peut plus justifier rationnellement les énoncés moraux, et cela correspond à notre époque, une époque où certains tiennent une théorie dite émotiviste de la morale ou de l'éthique. Pour McIntyre, ce qu'était la morale a disparu et ce qui s'en est suivi est une dégénérescence, un déclin culturel. Nous avons un auteur qui porte un jugement plutôt négatif sur les Lumières et sur la modernité. Nous en venons au troisième chapitre que nous vous avons envoyé. Alors, on me l'a fait remarquer, c'est vrai, le texte de McIntyre est un texte difficile, dense. J'espère que même si nous n'en comprenons pas tous les détails, certaines positions qui sont les positions saillantes de l'auteur deviendront plus claires et nous serviront dans notre propre réflexion. Au chapitre 3, ce que McIntyre essaie de préciser, c'est la sociologie de l'émotivisme, c'est-à-dire si l'on tient une position émotiviste, si l'on pense que soit la signification des énoncés moraux est en fait celle d'une préférence subjective de qui tient l'énoncé, ou si au moins on affirme que l'énoncé moral est comme le masque d'une position qui en fait est une position subjective, une disposition subjective, une préférence subjective qu'on essaie par le détour de la morale d'imposer aux autres. Donc, si on a cette conception émotiviste de la morale, quelle conception a-t-on alors de la société et des rapports des individus à la société? Toute philosophie morale, affirme McIntyre, présuppose une sociologie, c'est-à-dire présuppose une certaine conception de la société, présuppose une certaine conception des liens entre la personne et la société. Parce que une philosophie morale, digne de ce nom, doit pouvoir prendre corps dans la société. Et là, on retrouve ce qu'il nous a dit dès la préface de son ouvrage, c'est-à-dire que rien ne sert finalement de développer une morale de manière tout à fait abstraite, de manière tout à fait hors sol, si cette morale n'est pas mise en rapport avec un milieu social précis. La morale doit pouvoir prendre corps dans une société donnée. Et elle doit montrer comment elle peut prendre corps dans la société donnée. Il dit même un philosophe aussi abstrait qui pose au fondement de sa morale des énoncés très abstraits, très universels, comme Kant, eh bien, il propose ensuite un volet plus concret de sa morale en montrant comment celle-ci peut être vécue dans un milieu social concret. Alors, quelle est la sociologie, quel est le contenu social de l'émotivisme? L'émotivisme peut correspondre à différents milieux sociaux, mais il y a un principe qu'on retrouve toujours, c'est, je reprends les termes mêmes de McIntyre, l'oblitération, le fait d'occulter, de ne pas tenir compte, de toute distinction réelle entre relation manipulative et non manipulative. Une relation non manipulative, c'est une relation dans laquelle mon partenaire est laissé libre de faire ce qu'il estime juste et bon de faire. Une relation manipulative, c'est une relation dans laquelle je vais le conduire à faire quoi qu'il pense, quoi qu'il veuille, lui-même, que je conduise à faire ce que moi, je veux qu'il fasse. D'où l'importance, dans un contexte comme celui de l'émotivisme, où règne l'émotivisme, de la sociologie, de la psychologie, parce que la sociologie et la psychologie, me faisant connaître les processus sociaux et puis la manière dont les personnes réagissent à telle ou telle situation, la psychologie et la sociologie vont me montrer comment avoir de l'ascendant sur elles, voire comment les manipuler. Autrui est toujours, dans un tel contexte, le moyen de parvenir à mes fins et non pas une fin en lui-même. Vous savez peut-être que c'est un fondement de la morale kantienne que de dire qu'il faut toujours se comporter à l'égard d'autrui, à l'égard d'une autre personne, comme une fin et jamais comme un moyen. Donc, eh bien, c'est dans le contexte d'une société où règne l'émotivisme, le contraire, c'est-à-dire qu'autrui est toujours un moyen dont je vais me servir pour aboutir à la fin que je veux obtenir. Alors, comme je vous le disais, l'émotivisme peut régner dans des contextes sociaux divers et il en détaille, notre auteur, deux, à partir d'auteurs différents qui les ont décrits, chacun, un contexte qui est celui d'une aisance sociale où les personnes ont beaucoup de moyens et à partir de ces moyens, elles cherchent comment satisfaire leur désir, comment se faire plaisir, beaucoup de moyens, mais on est en recherche donc d'une fin qui puisse nous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Cela correspond à ce qu'il appelle l'esthétisme. Autre contexte social, alors les deux peuvent coexister au sein d'une même culture ou d'une même société, c'est le contexte de la rationalité bureaucratique. Alors là, on est dans une situation inverse à la première, c'est-à-dire que les moyens sont limités, alors que les fins, elles, sont prédéterminées, préétablies. Et cela entraîne souvent une compétition entre différentes entreprises. On sait fixer une fin, on a des moyens limités, on est souvent dans une situation de concurrence. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, on ne s'oppose pas la question de question morale. On ne se demande pas ce qu'il est bon ou mauvais de faire, mais comment parvenir à la satisfaction, à des satisfactions personnelles, ou comment obtenir une fin qui a été choisie indépendamment de toute réflexion morale. Et McIntyre cite ici un auteur, philosophe, très sociologue, politologue, très, très connu, qui est Max Weber. Max Weber, au fondement de sa philosophie politique et sociale, sépare très nettement la sphère des faits et la sphère des valeurs. Les valeurs sont sans autre justification finalement que subjective. Il y a d'une part le domaine des croyances et des évaluations qui sont le résultat de choix subjectifs et personnels, et puis d'autre part il y a le domaine des faits de la manière, je dirais, de gérer les faits. C'est chez Max Weber qu'on va trouver la distinction entre une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est l'éthique qui va faire prévaloir les convictions des sujets. L'éthique de responsabilité, c'est une éthique qui, quoi qu'il en soit des convictions, gère la situation pour en tirer le plus grand bien ou le moins grand mal possible. Ou c'est encore, chez même Max Weber, qu'on trouve la distinction entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, elle se prévaut de conviction, alors que le pouvoir se définit par le pouvoir que j'exerce, la puissance que j'ai sur autrui, quoi qu'il en soit de mes convictions morales et des leurs. Et ainsi, Max Weber va donner toute sa place à l'autorité bureaucratique. Il y a une fois que les fins auront été fixées et elles ne sont pas rationnellement, donc il ne peut pas y avoir un consensus social pour les finalités ou pour les convictions politiques, eh bien, une fois que les fins sont fixées, ensuite, il faut gérer la situation du mieux qu'on peut. Et c'est la sphère de la bureaucratie dont la seule autorité est celle de son efficacité à obtenir ce qu'elle veut obtenir indépendamment des fins, des valeurs, des convictions, voilà, qui sont le fait d'une décision subjective et personnelle. Donc, par exemple, en politique aussi, on va, au nom de cela, bien faire une grande séparation entre le domaine du religieux, du philosophique, d'une part, et puis le domaine, justement, du politique, qui sera celui de la gestion des situations, au mieux qu'on peut. McIntyre poursuit en introduisant une nouvelle notion qui me semble très intéressante, qui est celle de personnage. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par personnage ? On pense à des personnages de théâtre. C'est bien de là qu'il part pour se faire comprendre. Dans certaines formes de théâtre, surtout de théâtre ancien, certains personnages sont des personnages fixes qu'on retrouve dans toutes les pièces, que le public reconnaît immédiatement quand il les voit apparaître sur scène. Elles sont identifiées immédiatement et ce sont elles qui définissent les possibilités de l'intrigue, c'est-à-dire que tout se passe autour de ces personnages qui sont identifiés dans le caractère qui est le leur, de ce caractère donc découle un rôle bien précis dans l'intrigue. Je pense, c'est pas tout à fait Les références qui sont celles de McIntyre sont celles du théâtre no japonais ou le théâtre mystère anglais, que je ne connais pas très bien. Ce qui nous approche, même si ce n'est sans doute pas tout à fait la même chose, eh bien, c'est, pensons aux pièces de Molière, où on a un personnage comme l'avare, ou comme le dévot dans Tartuffe, ou comme le misanthrope, hein, qui a donné son nom à la pièce. C'est en tout cas un caractère bien déterminé, qui correspond à une certaine compréhension qu'en a le public, une compréhension partagée, commune du public, et autour duquel l'intrigue se développe. Alors, je dis, c'est pas tout à fait ce à quoi pense McIntyre, parce que dans le cas de l'avare, on pourrait peut-être réfléchir sur le cas du dévot, ou dans le cas du misanthrope, il s'agit vraiment d'un trait de caractère, et pas lié à une fonction sociale, alors que sans doute, je ne sais pas, dans le théâtre no japonais, j'imagine que, je ne sais pas, on a le soldat, qui correspond à une certaine idée qu'on a du soldat, et puis on a le paysan, une certaine idée qu'on a du paysan, et tout va se, toute la pièce va être construite à partir de ce que tout le monde attend du personnage en question. Chaque culture, dit McIntyre, on pourrait dire chaque culture, donc chaque société correspondant à cette culture, a son assortiment de personnages qui la définissent. Par exemple, dit-il, dans l'Angleterre du XIXe siècle, le directeur des écoles privées ou l'explorateur et où l'ingénieur, au XIXe siècle, le siècle de la révolution industrielle, le siècle des grandes explorations, le siècle aussi des collèges anglais tels que nous en avons une certaine idée commune, justement, eh bien, dans cette société, le directeur de l'école privée, l'explorateur et l'ingénieur sont des personnages à travers lesquels la société à partir desquels la société se définit, qui incarne un certain idéal moral. En Allemagne, à la même époque, c'est plutôt les officiers, les professeurs d'université ou les hommes politiques, et ils précisent même leur parti, les sociodémocrates. Et donc, on a deux cultures différentes à la même époque et qui ont comme pivot des personnages qui sont les représentants moraux de leur culture. Tout individu agit en fonction de croyances. Tout individu a un rôle social. Un individu peut jouer un rôle social sans adhérer aux croyances que ce rôle suppose. Il donne deux exemples. C'est un prêtre peut célébrer la messe sans plus avoir la foi. Ou l'autre exemple qu'il donne, c'est un responsable syndical qui milite dans son parti sans plus croire à l'idéologie du parti, par exemple. Donc, tout individu agit en fonction de croyances, tout individu exerce un rôle social sans adhérer nécessairement aux croyances que ce rôle social suppose. Mais le personnage, lui, doit jouer un rôle social et incarner un certain idéal moral. Dans le personnage, le type social, le rôle social et la psychologie coïncident. Alors, peut-être pas dans les individus concrets, hein, mais en tout cas, c'est l'image que l'on a. Les gens ont l'image de ce que doit être un directeur d'école, un explorateur, un ingénieur avec un caractère spécial. Et leur conception de la société, elle est construite à partir de ces personnages. Le personnage, écrit encore McIntyre, est la légitimation morale d'un mode d'existence sociale. Eh bien, si on en revient à l'émotivisme et au contexte social de l'émotivisme, il y a trois personnages qui, autour desquels tourne une société où règne l'émotivisme. Et donc, dans la pensée de McIntyre, dans notre société, hein, qui sont l'esthète, le directeur et le thérapeute. Alors, on a déjà parlé de l'esthète, l'homme riche qui a beaucoup de moyens et qui cherche comment satisfaire ses préférences, ses désirs, sans prétendre les justifier de manière éthique. Il y a le directeur, alors c'est le bureaucrate, hein, dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme qui montre l'efficacité de sa gestion, hein, d'un personnel, d'un patrimoine, d'un capital, etc. Et puis il y a le thérapeute, donc le psychologue, le psychanalyste, le médecin. Bon. Alors, dans tous les cas, que ce soit l'esthète, que ce soit le directeur, que ce soit le thérapeute, il n'est pas question dans leur activité de morale. La morale est comme mise hors jeu. Leur domaine est celui des faits, des moyens, de l'efficacité mesurable. Hein, ce qu'on attend d'un thérapeute, c'est qu'il trouve les bons moyens pour le bien-être physique d'une personne. Hein, on ne lui demande pas d'engager dans sa thérapie. Ce qui fait un bon médecin, ce n'est pas qu'il ait certaines croyances ou certaines convictions, mais c'est qu'il obtienne la santé des personnes dont il s'occupe. Alors, dire que ce sont ces trois personnages autour desquels tourne une société, ça ne veut pas dire que tous les membres de la société adhèrent aux croyances morales qui sont incarnées par les personnages. On va attaquer les bureaucrates, mais on va se définir par rapport aux bureaucrates. Alors, il oppose d'un côté une position qui serait une position qu'il appelle collectiviste d'un côté, ou d'un autre côté une position qu'il appelle plutôt individualiste. Mais le collectiviste ou l'individualiste peuvent s'en prendre à la bureaucratie, mais se définissent l'une à l'autre, l'un et l'autre, l'un comme l'autre, par rapport à elle. Les libéraux, ce qu'il appelle les néo-weberiens ou les néo-marxistes, l'école de Francfort, forment le cœur d'un même théâtre. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il se représente les choses, la situation, l'intrigue de la même manière, même si il se situe soit de manière positive, soit de manière négative par rapport au personnage qui joue l'intrigue. Alors, on a dit quelque chose du contexte social de l'émotivisme, on a parlé des personnages d'une société et des personnages de la société telle que l'émotivisme cela représente. Et enfin, ce sera le dernier point, qu'en est-il du soi émotiviste? C'est-à-dire comment est-ce que, d'un point de vue émotiviste, du point de vue de celui qui dit que la morale, en fait, n'est que l'expression d'une préférence, d'une disposition subjective, comment l'émotiviste se représente le sujet humain? Nous savons déjà qu'il l'a privé, ce sujet, de critères rationnels dans l'évaluation de son agir. Hein, c'est un sujet qui ne justifie pas rationnellement son agir. Il peut avoir des principes de son agir, mais ces principes eux-mêmes ne sont pas des principes rationnels. Ce ne sont pas des principes donc discutables. Hein. Ce sont des principes choisi, et choisi de façon toujours arbitraire. Le soi ainsi compris, le sujet ainsi compris, est toujours distingué de son rôle social. On a vu que bon, tout individu avait un rôle social impliquant certaines croyances auxquelles il adhère ou il n'adhère pas. Bref, le soi est toujours distingué de son rôle social. Et même selon la perspective que je dis, être un agent libre, c'est pouvoir se tenir à l'écart de toute situation où on peut être impliqué, de toute caractéristique que l'on peut posséder, c'est pouvoir émettre un jugement d'un point de vue purement universel et abstrait, entièrement dégagé de toute particularité sociale. C'est-à-dire que ce qui définit finalement le soi dans sa liberté, c'est de ne pas être lié à une position dans une société donnée. C'est le fait de ne pas se confondre avec elle. Il y a, de cette manière, dit McIntyre, une démocratisation de l'action libre, de l'action morale, disons. C'est-à-dire que tout sujet sera en fait crédité de cette liberté de pouvoir se distinguer d'un rôle social, d'une place dans la société, alors qu'il y a un monopole des compétences directoriales et thérapeutiques, c'est-à-dire que certains se réservent l'importance des personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc la fonction de diriger la société, de décider de ce qu'elle est en fonction des savoirs qui sont les leurs, non pas en fonction donc de leur valeur morale, parce que de toute façon on ne peut pas comparer moralement les individus les uns par rapport aux autres, hein, puisque leur position morale est le fruit d'un choix arbitraire. Et donc, moralement, encore une fois, on a un désaccord qui est irréductible, on a un pluralisme irréductible, hein, le propre d'une société émotiviste, c'est un pluralisme irréductible des convictions, des positions morales. Mais dans les faits, bien sûr, il va falloir mettre en œuvre des procédures pour éliminer le désaccord. Et si ces procédures ne peuvent pas être rationnellement discutées, sans doute, le chemin pour arriver à s'entendre sur ce qu'il faut faire, parce que si on vit ensemble, il faut bien s'entendre sur ce qu'il faut faire, ce sera plutôt la manipulation. Ce soi qu'il dit démocratiser, parce que c'est le fait de tout être, de tout sujet humain, hein, bien, ce soi qui est irréductible à toute position sociale, à tout rôle social, eh bien, en définitive, il n'est rien, en soi ni pour soi. Alors, il y a différentes théories, différentes manières de comprendre le soi à partir de là. Il y a un philosophe, sociologue, qui parle du jeu porte-manteau. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y a que des rôles sociaux et le jeu n'est qu'un un porte-manteau, hein, auquel on peut accrocher les différents rôles. Mais il n'y a rien en deçà des rôles sociaux. Tout est réduit à la sociologie dans cette position. Pour d'autres philosophes, et ici il pense à Jean-Paul Sartre, le soi est un ensemble de possibilités toujours ouvertes et le soi est toujours distingué des rôles sociaux qu'il assume, mais il faut toujours qu'il se garde d'être aliéné, absorbé par ses rôles sociaux, et il se définit dans sa liberté par la possibilité pour lui de s'extraire hein, des rôles, des conditionnements sociaux. Le soi, ainsi compris, poursuit McIntyre, c'est un soi sans continuité, sinon celle de son corps et de la mémoire où il engrange des souvenirs. C'est un soi sans histoire rationnelle, hein, puisque, en fait, les convictions qui sont les siennes sont des convictions tout à fait subjectives, individuelles. Il semble que, aujourd'hui, l'identité sociale des personnes ne soit plus disponible. Alors que dans les sociétés traditionnelles et prémodernes, et c'est ce qui va nous occuper pendant la prochaine séance, c'est par leur appartenance aux groupes sociaux que les individus s'identifiaient, qu'ils étaient donc identifiés. Et ce que dit tout de suite McIntyre, en anticipant sur ce qu'il développera plus tard, c'est que cette appartenance aux groupes sociaux qui identifiaient les individus ne les cantonnait pas à telle ou telle manière d'être. La personne ainsi située dans une communauté, sa vie était conçue comme un progrès vers une fin, un but, un telos, pour reprendre le mot grec d'Aristote. De sorte que, dit-il, dans ces sociétés, la mort est le point où on peut être jugé heureux ou malheureux. C'est-à-dire qu'au terme de son existence, on peut juger si la personne a atteint ou pas son telos. Donc on reviendra là-dessus, des sociétés où les individus sont situés, ont un rôle à accomplir et un but qui est le but de toute leur existence et qui donne à cette existence sa cohérence et qui les rattache aussi à une histoire antérieure qui est celle de la société à laquelle ils appartiennent et à des projets qui sont des projets communs. Le soi d'une société émotiviste n'appartient plus à aucune histoire, n'a plus non pour lui-même d'histoire personnelle cohérente orientée vers une fin. Voilà ce que nous pouvons lire chez McIntyre lorsqu'il essaye de penser la situation du débat moral aujourd'hui.
Alors on arrive à la période des questions, c'est certainement nécessaire après cet exposé très dense pour arriver à émerger peut-être, voilà, chacun selon ses... Alors, vous avez possibilité de poser des questions par la fonction de discussion en ligne, hein, qui est en bas de l'écran, discussion, si vous voulez poser des questions. Enfin, comme on n'est pas très nombreux, on peut peut-être aussi accepter et faire des discussions orales. Mais bon, déjà, si vous avez... Est-ce que les personnes qui sont dans la salle, puisque nous sommes quelques-uns dans la salle autour de Frère Gilles pour l'entourer, est-ce qu'il y a des questions ici, avant de voir s'il y en a à distance?
Je ne sais pas si c'est une question hors sujet ou... dans l'éducation, comment éviter l'aliénation? D'imposer son point de vue de la manipulation, je veux dire. Comment éviter la manipulation? et dans leur oratoire.
Alors, il faudrait d'abord se demander pourquoi éviter la manipulation. Se dire qu'il y a peut-être manipulation et manipulation. Si on comprend la manipulation comme le fait de conduire autrui là où il ne peut pas aller lui-même, hein. C'est-à-dire, en fait, de le priver de sa liberté dans son agir. Une personne manipulée est une personne qui n'agit pas par elle-même, simplement. Alors, votre question, finalement, c'est comment faire pour que dans l'éducation, on forme les personnes à agir librement, c'est-à-dire à agir à partir de principes assez clairement identifiés et de choisir par elles-mêmes les moyens d'obtenir les fins qu'elles auront déterminées de cette manière-là. Dans une société modiste, disons, pour reprendre les termes et la perspective de McIntyre, mais je réfléchis en vous parlant, il faut qu'on obtienne des individus un certain comportement. Pour des questions d'efficacité, pour des questions de sécurité, pour des questions d'utilité, bon, il faut qu'on obtienne des individus un certain comportement. Et j'allais dire, quoi qu'il en soit de leur conviction, hein, on ne leur interdit pas forcément de croire telle chose, mais quoi qu'il en soit de leur conviction, il faudra qu'on obtienne tel ou tel comportement. Et donc, à ce moment-là, le problème, justement, c'est comment obtenir d'elle tel ou tel comportement sans qu'elles impliquent dans leur agir les convictions qui sont les leurs. Voilà, je dirais quelque chose. C'est un problème. Hein. Est-ce que l'individu ne risque pas d'être scindé ou d'être trompé ou de ne pas être respecté dans ses convictions? C'est un problème que nécessairement une société pluraliste va se poser. Alors, on pourrait se demander quand même, hein, je ne dis pas que McIntyre a raison dans l'évaluation qui est la sienne des sociétés pluralistes modernes. Hein, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de convictions fondamentales sur lesquelles on puisse quand même se retrouver pour vivre ensemble socialement? On verra ce qui nous donne à penser de démocratie, etc. Dominique, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question.
Oui.
Est-ce qu'il y a des réactions sur cette question de manipulation dans les personnes à distance ou les personnes ici présentes? Je crois qu'on peut réagir oralement parce qu'on n'est pas nombreux.
En fait, moi, je me demande. Hein,
je pense que là où McIntyre est rejoint. Par des sociologues, des psychologues contemporains, c'est quand il nous dit, je pense à des auteurs comme Marie-France Irigoyen, que notre société est une société qui devient de plus en plus manipulative. Hein. Elle parle elle-même de la manipulation ordinaire, c'est-à-dire que on va non seulement développer des techniques qui sont des techniques de manipulation,
des formes de suggestions dans la publicité, etc.
Mais justifier le fait qu'on manipule les personnes et prendre comme modèle de relation les relations qui sont établies, par exemple, dans certains contextes commerciaux. Il faut convaincre la personne qu'elle a besoin d'un produit dont effectivement elle a besoin. C'est une manière de la manipuler. Il y a des techniques qui ressortent de la psychologie, de la sociologie pour le faire. On développe ces savoir-faire, qui sont des savoirs de manipulation, et ça devient des modèles. Parce que ça, c'est quelque chose sur quoi McIntyre peut s'entendre avec d'autres psychologues, d'autres sociologues. La question est de savoir si, effectivement, lorsque on n'a plus recours à des convictions partagées, on évite la manipulation. Ensuite, on peut se demander si la manipulation est toujours négative. Dans les contextes éducatifs, peut-être que les parents savent tirer de leur enfant des comportements que l'enfant lui-même, spontanément, n'aurait pas choisi, n'aurait pas voulu. Il y a peut-être une certaine manipulation aussi justifiée dans l'éducation. Voire dans l'enseignement, une façon de conduire, j'allais dire, malgré eux, entre guillemets, les personnes où on veut les conduire. Mais parce qu'on est convaincu que c'est pour leur bien. Cela dit, hors d'un contexte éducatif ou familial, on peut aussi manipuler les personnes en pensant que c'est pour leur bien, alors qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est les intérêts tout à fait subjectifs ou personnels.
Est-ce qu'il y a des réactions les uns et les autres ou d'autres questions?
Mais est-ce que dans un contexte émotiviste, il reste une possibilité de vertu?
Marie-Charlotte, tu veux parler, mais on ne t'entend pas.
Ah. Je ne sais pas pourquoi.
Il faut le moyen, c'est ça va venir. Ça.
Je ne sais pas pourquoi.
Cette question de la manipulation est centrale dans l'antiquité chez les orateurs. Qu'est-ce qu'un bon orateur et un des mots qui définissait le bon orateur, c'était un homme vertueux. Et puis après ça, habile à parler. Mais il y avait le mot vertu dedans. Peut-être que c'était pour éviter la manipulation.
Oui. Oui, alors la rhétorique, c'est on est dans un domaine qui est celui de la persuasion et pas de la pure argumentation rationnelle. Donc il faut rejoindre l'autre dans ses sentiments, dans ses affections, toucher son imagination. On le fait dans le discours politique, on le fait dans le discours religieux, on le fait dans le discours en famille, etc. On engage la rhétorique de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui fait que la rhétorique, tout en n'étant pas purement rationnelle, n'est pas manipulative, se poser cette question.
Il y a une question de Marie-Charlotte. Y a-t-il possibilité de vertu dans l'émotivisme?
Alors oui, sans doute. On va voir comment... Si on définit la vertu comme une disposition qui permet d'obtenir la fin que l'on s'est fixée, il y a des dispositions qui sont estimées, dans un bon gestionnaire. Il aura certaines vertus. On détaillera ça à la fin du parcours, mais McIntyre dit que alors que les anciens parlaient des vertus, une certaine morale, surtout à la fin du 19e siècle, on est venu à parler de la vertu. Et a une conception très pauvre de la vertu comme en fait correspondant à ce qui permet justement à une personne d'entrer dans le fonctionnement d'une société ou d'un groupe, etc. Donc on aura une conception très, très, très pauvre de la formation des personnes et de la vertu. Oui, donc en contexte émotiviste, oui, on pourra parler de vertu, mais de façon très, très appauvrie par rapport à ce qu'en disaient les anciens.
Il faut ouvrir ton micro, Marie.
Là, c'est bon.
Alors oui, c'est pas nous qui les.
Oui.
Ou peut-être que
Marie, vous entendez là.
Il y a peut-être une question.
Oui. S'il y a une question, voilà. Dites-moi si je pose ou si j'attends. Si vous avez des questions.
Non, vas-y.
Bonjour. Je me suis posé une question en lisant le chapitre, le texte. Ce qui est défini par McIntyre comme de l'émotivisme, je me suis posé la question avec le discernement, enfin c'est pas tout à fait la philosophie, mais avec ce que dit Saint Ignace sur le discernement des émotions ou est-ce qu'il s'agit des mêmes émotions, enfin on sait qu'elles viennent de l'Esprit Saint, mais alors peut-être que c'est un enjeu du texte, c'est pas directement philosophique, mais comment est-ce qu'il peut redéfinir peut-être l'émotivisme, est-ce que ça a un lien avec, puisqu'il y a de la psychologie, il y a des, comment est-ce qu'on sait que en fait se fier à une émotion et enfin que dit Makita est quelque chose qui m'apprend quelque chose sur le moi, qui au contraire m'aide à vivre en société. Est-ce qu'il faut bannir absolument l'émotion? Je n'ai pas lu la fin du livre de Magda, je ne sais pas, mais je me suis posé cette question, en fait.
Oui, moi, je pense que... alors là, il faut vraiment vous remettre... Il faut couper. Alors, c'est moi qui dois... Non.
Ça va, il faut que j'éteigne mon micro.
Si vous m'entendez maintenant, c'est peut-être moi simplement qui ai coupé. Voilà. Vous posez une question très très importante et qui nous permet de d'éclairer les choses. McIntyre n'a rien contre les émotions ou les passions. Comme Aristote ou Saint Thomas donne une importance aux passions et aux émotions. Et d'ailleurs, les vertus sont une culture aussi de notre affectivité, la tempérance, la force, ce sont des vertus qui disposent, transforment, font mûrir notre affectivité et donc déterminent ce que sont nos passions. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de passion ou pas d'émotion, mais si on se reporte, comme vous nous le proposez de façon très intéressante, aux exercices de Saint Ignace, il y a ce que Saint Ignace appelle les fondements au début des exercices, où il dit que, commence par dire, nous sommes ici-bas pour connaître, aimer et servir Dieu.
Il y a des personnes dans la salle. Ils
sont tout ordonnés à cette fin. Et une fois que cette fin est ordonnée, effectivement, lorsqu'il faut discerner les orientations à prendre, il y a une prise en compte des motions qui m'habitent. Pour savoir quelle motion est bonne, les motions, elles sont discernées à partir d'une fin qui a été déterminée par la foi, par la raison éclairée par la foi. Donc on a dans un contexte ignatien une grande importance donnée aux passions, aux motions intérieures, celles-ci sont déjà orientées vers un telos, vers une fin. Voilà.
D'accord. Oui, merci. C'est le telos qui change et qui par rapport à ce que dit Makinta.
Il y a une autre question de Marie-Charlotte. Vous voyez là.
Vous pouvez parler, Marie-Charlotte.
Ah, mais c'était juste personnellement, je me suis étonnée, en effet, que soit nommée cette pensée qui est décrite émotivisme, par le mot émotivisme. Je l'aurais caractérisé par un autre mot, peut-être.
Et quelle est votre proposition ?
Je n'en ai pas. Mais ce mot émotivisme ne me semblait pas forcément recouvrir ce qui était décrit ou incomplètement, ou je ne sais pas. Ça m'a étonné ce mot.
Oui, alors, ça signifie, émotivisme, que ce qui est premier, c'est une disposition affective, au fond. Donc, une disposition qui n'est pas rationnelle, mais qui est affective, et c'est elle qui décide de l'orientation d'une existence et de ce que je veux dire être bon et de ce que je veux dire être mauvais. C'est le fait que on dit émotivisme parce que c'est l'émotion qui est au premier plan. C'est elle qui est le principe premier. Alors que dans ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'émotion, elle est mobilisée par l'intelligence, par la raison. La volonté n'est pas là pour servir l'émotion, mais c'est plutôt l'inverse. Donc là, c'est vraiment l'émotion qui est le principe directif du comportement.
Oui,
et donc ça me semble assez clair et assez juste de parler d'émotivisme.
Oui, mais est-ce que ce qui est décrit va plus loin que ça pour moi? Parce que ce qui est décrit.
Oui, Marie-Charlotte.
Ce qui est décrit, vous ne m'entendez pas? Si, ce qui est décrit là, c'est que tout est émotion, qu'il n'y a rien d'autre qu'émotion. Donc ça va plus loin. Ce n'est pas qu'on choisit les émotions. C'est qu'on considère qu'il n'y a que des émotions. On balaye, pour moi, l'ontologie, je ne sais pas, les lettres, la vérité, pour dire tout est relatif, il n'y a que des émotions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que ce n'est pas tout à fait... vrai, parce que, si vous voulez, il y a aussi de la rationalité, il y a aussi de la volonté, il y a aussi... Mais la rationalité, la volonté sont mises au service de l'émotion. On ne dit pas qu'il n'y a que des émotions, on dit que les émotions sont premières. Peut-être pas toutes les émotions, d'ailleurs, mais que c'est... Encore une fois, c'est une disposition affective qui est mienne et qui détermine... qui détermine entièrement mon agir. Et comme si c'était l'émotion, ça ne se discute pas. Mais ensuite, on va discuter. On va discuter pour vivre ensemble, on va discuter pour faire des projets, pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Donc, ensuite, la rationalité va se mettre en œuvre. Mais il y a une sorte de désordre fondamental qui fait que l'émotion est première. Elle n'est pas seule, mais elle est première. Par exemple, il parle d'un contexte bureaucratique, par exemple, dans la bureaucratie, on ne fait pas trop de sentiments hein, quand on est amené à faire fonctionner une entreprise de façon efficace, c'est pas le sentiment qui est premier. Enfin, c'est pas le sentiment. C'est pas le sentiment qui régule. Le travail. Mais ce qu'on dit, c'est que finalement, cette grosse machine bureaucratique, elle n'a plus d'autre ressort que les passions de certains, ou les choix arbitraires de certains à partir des dispositions affectives qui sont les leurs, je dirais.
Oui, donc
c'est les passions, c'est les émotions qui commandent, et peut-être les passions et les émotions de certains au détriment d'autres qui seraient manipulées, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que de l'émotion ou que de la passion dans la vie sociale. Et on sait bien d'ailleurs que les grands manipulateurs, si je puis dire, je ne veux pas réduire la vie des sociétés des personnes à ça, mais les plus grands manipulateurs sont des personnes qui à la fois sont des personnes très calculatrices et derrière une froideur apparente se cache un volcan de passion, quoi, hein. On peut voir dans le comportement d'une personne liée une capacité d'organisation, de calcul très avec des émotions très très fortes. Alors ça peut être positif ou négatif. Je prends l'exemple du manipulateur, du manipulateur qu'il est de façon, je dirais, pathologique.
Un truc économique.
Et je pense, oui.
Il y a des questions dans la salle.
Vous voulez parler, posez votre question fort pour qu'on entende.
Merci beaucoup.
On doit être dans un temps.
Vous dites que cette dégradation se procède en étapes et que le siècle des Lumières est un moment nouveau. Mais quand je réfléchis au voyage,
je viens de prendre la midi, mais
j'ai en place par la Europe, la Bible, au moment de Jésus, il y avait déjà quand même un jeu de personnages, de défense d'intérêts qui était déjà très présent. Donc, est-ce que ce qui est décrit comme l'émotivisme, c'est pas.
C'est pas au même endroit. Là, c'est vraiment sur le rachis.
La suite, on va découvrir. Est-ce que c'est pas tout simplement une proposition d'intégrer.
C'est quand même curieux.
Est-ce qu'il n'y a pas, finalement jamais eu d'intégration de la vertu et de la morale dans le fonctionnement des sociétés ? Voilà.
Oui, merci.
Vous pouvez reformuler peut-être la question. Je ne suis pas sûr qu'on entende bien
au loin. Oui, votre question, elle est très, très intéressante, très importante. Vous dites finalement, il y a toujours eu de la manipulation, même dans les sociétés anciennes. En quoi est-ce qu'elle diffère des sociétés actuelles? Le problème, c'est pas que il y ait toujours eu de la manipulation ou le problème, c'est celui de la possibilité d'un débat moral qui soit un débat. Alors il y a le débat moral, il existe, hein, il est parti de là. Aujourd'hui, il existe. Il y a des débats moraux, des débats politiques. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est bon de faire ou pas? Donc, le débat moral, évidemment, il existe. Mais aujourd'hui, dit McIntyre, et c'est ça la différence, c'est que le débat moral, on ne peut pas le conclure. On est devant des positions qui sont irréductibles l'une à l'autre. Alors, dans les sociétés anciennes, il y avait un consensus moral. Et ce consensus moral, ce n'était pas nécessairement un consensus imposé par voie d'autorité, ça ne signifierait rien d'ailleurs, parce qu'on pouvait imposer un comportement aux gens, mais on pouvait leur imposer, les priver de leur intelligence et de leur liberté, hein, c'est une société d'esclaves. Donc, il y avait un consensus moral, il y avait donc la possibilité d'argumenter à partir de principes partagés par tous et qu'on estimait être accessibles et admissibles par tout être rationnel, je veux dire. Hein. C'est ça la différence. C'est donc, on part, son point de départ, c'est les conditions du débat moral. Et de dire qu'aujourd'hui, il y a bien un débat moral, mais que ce débat moral, il oppose des positions inconciliables. Et si ces positions sont inconciliables, c'est car, parce que chacune d'elles procède de principes qu'on estime être des principes finalement purement subjectifs. Même quelqu'un comme Max Weber, hein, qui est un grand penseur politique, etc., vous dira, il y a le domaine des convictions, il y a le domaine de la gestion des faits. Et le domaine des convictions, ça ne se discute pas. Et c'est sans doute important aujourd'hui dans
le système
démocratique, libéral, à la laïcité, c'est-à-dire il y a le domaine des convictions, en particulier des convictions religieuses, mais aussi des convictions philosophiques profondes. Ça ne se discute pas, c'est une question au point aussi qu'on dira ça ne se discute pas et donc ça ne se transmet pas. C'est-à-dire que c'est à chaque individu. Mais qu'est-ce qui va permettre à qu'est-ce qui va autoriser par exemple une génération à imposer à la génération suivante les convictions qui sont les siennes. Alors, et c'est là qu'on comprend mieux ce qu'il entend par émotivisme, le fait de dire il enlève toute distinction entre manipulation et pas manipulation. Dans une perspective émotiviste, il va dire quand des parents transmettre leurs convictions à leurs enfants, c'est une forme de manipulation. Hein, c'est-à-dire que les convictions, chacun en a des convictions, et se détermine à partir de ses convictions. Mais ces convictions sont le fait d'un choix qui, en définitive, est un choix subjectif ou arbitraire. Et alors que dans les sociétés anciennes, prémodernes, il y a une forme de consensus moral qu'on estime être un consensus correspondant à la nature des personnes, des choses, et sur lequel tous doivent s'entendre. Et donc, on peut dire, comme le disait le moraliste, que l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Hein, c'est-à-dire que on peut être, ne pas être vertueux, mais on s'entendra quand même sur ce qu'est le vice et la vertu, vous voyez. Alors que dans un contexte émotiviste, ça n'a plus vraiment de sens. Hein. Alors le paradoxe, c'est que donc les émotivistes vont vous dire tout en fait est fonction de dispositions qui sont des dispositions subjectives arbitraires. Mais cependant, on ne se dispense pas de la morale. C'est-à-dire, on continue à dire « tu dois faire ceci » ou « tu ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que la morale est le masque d'autre chose. C'est une façon de faire passer, mais sans le dire, en disant autre chose. Ses propres projets, ses propres préférences, etc. Et les imposer aux autres. Donc, la morale est une grande manipulation, je dirais, d'une certaine manière, hein, d'un point de vue émotiviste, qui est alors celui de, pour McIntyre, la conception des choses qui sera celle de Nietzsche. Nietzsche, dans sa conception de la morale, dit finalement, en fait, la morale, c'est une façon pour les faibles de contourner la puissance d'effort ou certains voilà mais la morale est toujours quelque chose qui est de l'ordre du masque dans cette situation-là, alors que dans les sociétés anciennes ça ne l'était pas. Les étapes, si on reprend ce qu'il dit, il y a un moment où on justifie rationnellement et on pense y être arrivé, on justifie rationnellement la morale, donc on la justifie à partir de ce que sont les personnes, de ce que sont les situations. Ça, c'est effectivement, la situation, il dira, la situation des sociétés anciennes ou du Moyen-Âge. Il y a un moment où on va essayer de donner justification rationnelle à la morale, mais on n'y arrive plus. Alors, il va expliquer pourquoi, parce que la société, d'une certaine manière, la société ne repose plus sur des convictions communes. Il n'y aura plus de convictions d'ordre métaphysique ou religieuse communes. Alors, sur quoi va-t-on faire reposer la morale ? On va essayer de trouver une autre façon de faire, et selon McIntyre, on peut discuter, on n'y arrive plus. Et la troisième étape, c'est on reconnaît qu'on n'y arrive plus et on n'essaye plus de justifier rationnellement la morale. Hein, mais on a une interprétation émotiviste du discours moral. Merci beaucoup de votre question, ça éclaire un peu.
On ne peut pas vivre sans morale. C'est...
Oui, là tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord quand même, il y a un point commun.
Oui.
Alors, je voudrais vous préciser quelque chose. Vous dites que c'est des choix arbitraires. On fait un choix arbitraire. On fait un choix arbitraire par rapport à quoi?
Alors, vous avez, c'est bien de poser la question, je pense.
Vous posez peut-être la question, je ne suis pas sûr que tout le monde l'entend.
Oui, vous demandez, j'ai dit effectivement, ce qui prévaut dans une perspective émotiviste, c'est un choix arbitraire. Il y a une option fondamentale, et cette option fondamentale, en fait, elle est arbitraire. Et vous dites, on l'a fait quand même par rapport à... Alors, arbitraire, ça signifie dans ce sens-là qu'on l'a fait par rapport à... Comment dire c'est par rapport à ce qu'on est, je dirais. Hein, c'est-à-dire... mais c'est même pas tout à fait évident parce qu'il nous dit par ailleurs que le soi émotiviste, il est rien, justement. Et de fait, je pense que dans une certaine littérature au XXe siècle, je pense à certains passages de Gide, qu'on a peut-être connus, ou dans certains textes de Sartre, au fond, il y a une liberté pure qui n'est pas plutôt déterminée à ceci qu'à cela, et elle s'exprime en faisant, j'allais dire, un peu n'importe quoi, mais elle se décide à un moment pour ceci ou pour cela, et puis elle s'engage, sans que cela ait véritablement de sens, dans une direction ou plutôt dans une autre. Alors, ou on peut dire que, sans aller jusque-là, c'est-à-dire sans aller dans le pur arbitraire, c'est en fonction de dispositions personnelles qui fait que vous aimez plutôt le sucré que le salé, et vous allez imposer à tout le monde de la cuisine exclusivement salée, vous avez toujours le sucre, en disant le sucre c'est très mauvais, mais en fait c'est parce que le sucre vous ne l'aimez pas. Ça c'est une comparaison assez facile, hein, et assez accessible. Vous allez dire, vous allez masquer votre préférence personnelle par un discours moral. C'est pas bien de manger du gâteau, mais c'est parce que moi j'aime pas le sucre, en fait. C'est ça que c'est pas bien de manger du gâteau, donc tu n'en mangeras pas. Ça, mais au fond, ce qui se cache derrière, c'est ma préférence du salé pour le sucré. Au point où nous en sommes, on n'a fait que décrire les choses, finalement, hein, sans vraiment... il ne nous dit pas, McIntyre, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il nous a déjà prévenu que, selon lui, l'état du débat moral actuel est le produit d'une certaine dégradation, hein, du lien social, etc. Mais il ne l'a pas encore montré. Hein, pour l'instant, il nous a proposé une description de notre société et des conditions actuelles du débat moral. Et il me semble que on est quand même arrivé à une compréhension de ce qu'il appelle l'émotivisme. Aussi ce qu'il dit des personnages est intéressant. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans le fait que dans une société qui doit quand même fonctionner, hein, donc qui eh bien tout s'organise autour de ce qu'il appelle l'esthète, le directeur et le thérapeute.
L'heure étant passée, on va peut-être en rester là. Moi qui ai encore une dernière question qui brûle sur les lèvres de quelqu'un. Notre prochaine soirée est le 16 février. Donc, jeudi 16 février, on vous enverra, puisqu'on a normalement toutes vos adresses mail, on vous enverra à l'avance le texte du passage de McIntyre qui sera la base de cette deuxième soirée. Et puis, vous enverrez le lien Zoom, surtout, pour ceux qui se connectent par Zoom. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, frère Gilles ?
Ben, sinon, un peu pour le contenu de la prochaine fois, donc, on verra ce que McIntyre dit des vertus dans les sociétés anciennes, des vertus chez Aristote, etc.
Donc, on va essayer de mettre l'enregistrement audio, purement audio, pas l'aspect visio qui n'a pas d'intérêt particulier, l'aspect audio sur le site de l'association scolaire. Mais on vous préviendra par mail quand on aura réussi à le faire. Et quelques subtilités techniques qu'on va espérer maîtriser.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, frère Gilles. C'était très intéressant. Par moments, je me sentais un peu dépassé, mais. Voilà,
c'est très intéressant. Merci beaucoup, bonne soirée.
Oui, bonsoir.
Merci à ceux qui sont connectés au moins, merci à ceux qui sont venus auprès. Et alors, au 16 février.
Entendu. Au revoir, bonne soirée.